Bonjour à tous. La Bible nous parle de Dieu et c'est un merveilleux privilège que de la lire pour apprendre à le connaître. Car c'est ainsi que Dieu se révèle à nous. Je suis content de vous retrouver cet après-midi pour poursuivre l'étude du livre d'Amos. Il y a 3 semaines, nous avions évoqué dans le chapitre 8 le jugement irrévocable de Dieu à l'égard d'Israël. C'était un verdict sans appel. Le royaume du Nord avait en effet atteint un point de non-retour. Et devant leur absence de repentance, Dieu avait décidé de ne plus leur pardonner. Avant de poursuivre, laissez-moi vous raconter une histoire fictive. C'était l'histoire d'un petit garçon, appelons-le Philippe. Philippe était un petit garçon assez turbulent. Il n'écoutait pas vraiment en classe et il préférait chahuter avec ses amis. D'ailleurs, il savait le faire très discrètement. Le professeur, Monsieur Juste, était strict et n'hésitait pas à punir ses élèves pour leurs bêtises. Philippe pensait qu'il n'allait jamais être puni pour ses bêtises, pour ses propres bêtises. Savez-vous pourquoi il pensait cela? Eh bien parce que Philippe était le fils de Monsieur Juste. Et à la maison, il l'appelait papa. Cette histoire, avec les limites de la comparaison, nous permet de comprendre un peu l'état d'esprit des Israélites. Ils pensaient échapper au jugement de Dieu, du Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte et qui avait été si bon à leur égard. Ils pensaient échapper au jugement de celui qui avait pris soin d'eux comme un père. Mais Amos, le prophète, de la part de Dieu, leur rappelle qu'il n'en est rien. Dieu a prononcé sa sentence et il va l'exécuter. Et aucun Israélite coupable ne pourra l'éviter. Nous avions dit la dernière fois que nous sommes peu habitués ou peut-être mal à l'aise face à la description d'un Dieu qui déchaîne sa colère. Et en même temps, nous avons dit combien Dieu était juste lorsqu'il punissait ainsi ceux qui péchaient contre lui. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ce début du chapitre 9? Nous pouvons relever 4 enseignements. En lien avec la souveraineté de Dieu. Et je définirai tout à l'heure ce qu'on entend par là. Le premier enseignement, que personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Deuxièmement, que personne ne peut échapper au Dieu souverain. Troisièmement, que personne ne peut se vanter, comme l'ont fait les Israélites. Et enfin, que seul Dieu fait la différence. Premièrement, personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Alors, petit retour en arrière et je vous invite à suivre avec moi soit le texte qui va s'afficher, soit sur votre Bible. Petit retour en arrière, dans Amos 8:14, il était question des idolâtres et la sentence à leur égard était la suivante: ils tomberont sans jamais se relever. Ici, au chapitre 9, nous avons une nouvelle vision que vous voyez au verset 1. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. Amos a une nouvelle vision et cette fois-ci, il voit le Seigneur. Alors ne me demandez pas comment il voit le Seigneur, mais le texte nous le dit, il voit le Seigneur debout sur l'autel, c'est-à-dire à l'endroit où on faisait des sacrifices. Et les paroles du Seigneur ne sont pas tendres, il ordonne la destruction d'un temple, de ce qui semblerait être un temple ici, un sanctuaire. Frappe, brise, sont des termes qui évoquent la violence, la destruction. Mais ce sont les mots d'ordre de Dieu. Nous ne savons pas à qui Dieu s'adresse en disant cela, et ce n'est sans doute pas un détail très important. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces ordres doivent conduire à l'effondrement du sanctuaire. Cet effondrement sur les adorateurs eux-mêmes. Les Israélites sont coupables d'idolâtrie, et Dieu ne peut plus supporter cette infidélité. Dieu avait fait alliance avec le peuple d'Israël après l'avoir fait sortir d'Égypte. Mais les Israélites n'ont pas tenu leurs promesses, leur engagement envers Dieu. Ils n'ont pas respecté les termes du contrat. Ils se sont tournés vers d'autres dieux. Quelle infidélité! C'est pourquoi il leur arrive ce que Dieu avait prévu. En cas de rupture du contrat, de l'alliance, Dieu avait promis de punir son peuple. Et aucun Israélite coupable ne sera épargné. Ici, vous le voyez au verset 1, par deux fois le Seigneur dit que personne ne pourra en réchapper. Et quand vous voyez la suite des versets 2 à 4, eh bien, nous avons cette même idée. Quel que soit l'endroit où l'être humain pourrait chercher refuge, eh bien Dieu pourra le retrouver. Il n'y a pas de hauteur céleste, ni même terrestre. C'est pour ça qu'on mentionne ici le mont Carmel. Il n'y a aucune hauteur céleste, ni terrestre, qui soit un refuge sûr pour fuir la colère de Dieu. Pas plus que les profondeurs de la mer, verset 3. Pas plus que le séjour des morts, s'il était possible de se réfugier là-bas. Et au verset 4, même en étant prisonniers et en exil, les Israélites n'échapperont pas à la mort. Observez encore les verbes qui sont employés ici et qui décrivent les actions de Dieu. Les verbes arracher, chercher, attraper, ordonner au serpent de les mordre, ordonner à l'épée de les faire mourir. Nous voyons que le Seigneur est déterminé, coûte que coûte, à punir tous les Israélites coupables. Aucun lieu ne peut les soustraire à la justice de Dieu. Et à cet égard, quand vous lisez la fin du verset 4, je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Eh bien, lorsqu'on entend ça, on est un peu terrifié. Comment Dieu peut-il dire cela? Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne supporte plus le mal commis par son peuple. Et les malédictions que Dieu avait prévues dans son alliance, en cas de rupture, vont se réaliser pour Israël. Dieu tient ses promesses, y compris lorsqu'il avertit. Comme nous le montrent ces premiers versets, personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Alors on peut se demander, pourquoi une telle insistance là-dessus? Pourquoi Dieu serait-il prêt à chercher coûte que coûte le pécheur là où il se cache? D'abord, pour ceux qui entendent ces paroles, c'est l'affirmation que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et donc il insiste là-dessus. Dieu ne plaisante pas avec le péché. Et ensuite, cela nous rappelle que Dieu nous demande des comptes. En tant que créature vivant dans un monde créé par Dieu, nous devons rendre des comptes à notre Créateur, par rapport à nos actes, par rapport à notre manière de vivre. Dieu nous a créés en tant qu'êtres responsables, responsables de nos actes. Si nous péchons dans ce monde que Dieu a créé, nous péchons toujours contre Dieu. Or, Dieu n'a pas créé l'homme, la femme, pour qu'ils pêchent. Dieu n'a pas créé l'homme, la femme, pour qu'ils commettent le mal à l'égard de leur prochain. Et à vrai dire, en cela, nous avons tous échoué. Nous avons tous déjà bafoué les lois justes et bonnes établies par Dieu. Et depuis le jardin d'Éden, le péché est puni par la mort. Les Israélites sont punis ici pour leur idolâtrie et pour leurs nombreuses injustices. Mais qui de nous pourrait prétendre ne pas avoir été idolâtre? N'avons-nous pas cherché d'autres dieux que le Dieu véritable? Oui, nous l'avons fait. Et parfois, malheureusement, même une fois convertis, nous courons encore après d'autres idoles. L'argent, la réussite, la sécurité matérielle, l'approbation des autres. Oui, parfois, nous dépendons de ces choses-là. Tout ce qui remplace Dieu devient une idole dans notre vie. Alors oui, pour tous ces actes que nous pouvons commettre, nous devons rendre des comptes à Dieu. Dieu nous tient pour responsables. Et en sachant cela, ne soyons pas négligents dans notre manière de vivre. Ne soyons pas insouciants comme si nos actes n'avaient pas d'importance aux yeux de Dieu. Au contraire, tous nos actes comptent. Personne n'échappe donc à la justice de Dieu. Et nous rendrons compte un jour de tout ce que nous avons fait. Mais le texte semble mettre l'accent sur un autre aspect. C'est que personne ne peut en fait échapper à un Dieu souverain. Et c'est l'objet du deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce texte. Personne ne peut échapper à un Dieu souverain. Alors, il nous faut d'abord définir ce qu'on entend par souveraineté de Dieu. Et pour cela, je vous propose une définition que j'ai trouvée dans un ouvrage de doctrine qui nous dit que la souveraineté de Dieu signifie qu'il est Seigneur, qu'il règne sur l'univers qu'il a créé et qu'il conduit chaque événement en vue de l'accomplissement de son plan. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est le Seigneur, qu'il règne sur l'univers qu'il a créé, qu'il conduit chaque événement en vue de l'accomplissement de son plan. Nous avons vu qu'aucun lieu ne pouvait être une cachette sûre pour l'homme pécheur. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il est partout. Que ça soit dans les cieux comme sur la terre. Il est véritablement le Seigneur, même si l'homme ne veut pas le reconnaître. Il est véritablement le Seigneur, même si aujourd'hui, certains cherchent à nier son existence. Cela ne change rien. Et lorsque vous voyez les versets 5 et 6, eh bien ces versets-là nous parlent de la souveraineté de Dieu. Selon certains spécialistes, ces versets ressemblent à un hymne à la louange de Dieu. Une louange qui exprime la puissance, la toute-puissance du Seigneur des armées célestes, du Maître de l'univers, comme c'est traduit ici. D'où ce passage dans les premiers versets à la première personne, et ici nous passons à la troisième personne. Ça c'est un peu de français, voilà. On passe de la première personne à la troisième personne, et peut-être qu'ici nous avons une sorte d'hymne. Pour ceux qui se souviennent encore du chapitre 8, le verset 5 donne une impression de déjà-vu. En effet, la comparaison de la terre au fleuve du Nil avait déjà été évoquée dans le chapitre 8, au verset 8. Il s'agit de la même image pour parler sans doute d'un tremblement de terre. Ce qui est différent ici, c'est que le prophète insiste sur le fait que ce soit le Seigneur qui provoque ce tremblement de terre. Au contact du Dieu de l'univers, la terre se fend, la terre tremble, la terre est secouée. En effet, quand Dieu se manifeste, la création est d'une manière ou d'une autre bouleversée. Et cela me rappelle que cette semaine, alors que nous étions dans le groupe de maison de Joinville, et que nous étudions le texte d'Habacuc au chapitre 3, nous avions cette vision de Dieu qui vient et les montagnes tremblent. Dieu vient et les collines s'effondrent. Personne dans l'univers ne peut faire cela à part Dieu. Est-ce que vous avez déjà imaginé un homme qui arrive et les montagnes tremblent ? Non, personne ne peut faire cela. Seul Dieu le peut. Seul Dieu peut provoquer de tels bouleversements. Mais ce n'est pas simplement un effet de la manifestation de Dieu ici. Ce tremblement de terre est bien un châtiment de la part de Dieu. Un châtiment contre son peuple. Et la conséquence, c'est que, verset 5, tous ses habitants sont dans le deuil. Continuons avec le verset 6. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Dieu est souverain et sa demeure est dans le ciel. Ici, le mot qui est utilisé, c'est le mot palais, mais plus exactement, le texte dit que Dieu a construit des marches dans le ciel, des marches qui mènent jusqu'à son trône. Ici, il nous est dit qu'il a fondé sa voûte sur la terre, plus exactement, il a fondé sa voûte au-dessus de la terre. Parce que Dieu est au-dessus de sa création. C'est lui qui règne sur sa création. C'est lui qui a l'autorité de commander aux éléments de la nature. Ici, nous voyons qu'il appelle l'eau de la mer et qu'il la verse sur la surface de la terre. Alors, selon certains commentateurs, en réalité, c'est une image pour parler de la pluie, du cycle de l'eau. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Dans tous les cas, nous avons ici l'idée que Dieu maîtrise toute sa création. Et c'est pour cela que personne ne peut lui échapper. Aucun homme ne peut se cacher à ses yeux. Et le verset 6 se termine par cette affirmation, l'Éternel est son nom. Ce n'est pas la première fois qu'Amos énonce cette vérité dans ce livre. Et ça signifie qu'il faut encore l'entendre. Il faut encore que le prophète se répète et nous dise que l'Éternel est son nom. Celui que nous venons de décrire comme le Créateur, c'est l'Éternel. Il n'y a personne comme lui. Dieu est unique. Dieu est éternel. Il était là bien avant nous. Il n'est pas un Dieu lointain qui se réfugie dans le ciel sans se préoccuper de sa création. Au contraire, il s'en préoccupe. Et il peut intervenir avec puissance pour bouleverser les éléments. La terre tremble quand il le fait. Ces deux versets sont là pour nous inspirer louange et crainte. Une crainte qui nous fait prendre conscience de qui est Dieu. En fait, les Israélites avaient perdu de vue cela. Et c'est pourquoi ils n'ont cessé de s'enfoncer toujours plus dans le mal, dans ce qui était injuste aux yeux de Dieu. Et lorsque nous-mêmes, nous perdons de vue la grandeur de Dieu, c'est là que nous courons le risque aussi de vivre une vie détachée de notre Créateur. Dieu est puissant. Est-ce que vous le croyez ? Et il peut utiliser sa puissance redoutable pour juger son peuple. En réalité, pour juger tous les peuples. Et ici, les Israélites vont le découvrir. Est-ce que dans ces versets que nous venons de lire, les versets 5 et 6, est-ce que tu reconnais ton Dieu ? Est-ce que c'est l'image que tu te fais de Dieu ? Oh, combien nous avons besoin de connaître ce Dieu-là qui a bâti les marches de son trône dans le ciel. Combien nous avons aussi le devoir de le faire connaître. Dites-moi, comment votre entourage, comment vos enfants, comment vos amis voient-ils Dieu ? Et comment nos contemporains voit-il Dieu ? Amos nous montre ici une vision de Dieu tel qu'il est. Nous avons vu que personne ne pouvait échapper à la justice de Dieu. Tous ont des comptes à lui rendre. Personne ne lui échappe parce qu'il est au-dessus de tout. Il est le seul vrai Dieu, digne de notre adoration. Et d'ailleurs, c'est la seule attitude appropriée de notre part, de l'adorer. Or, les Israélites n'ont pas adopté cette attitude. Ils pensaient échapper au jugement de Dieu, d'un Dieu qui les avait choisis. Mais Dieu leur rappelle, dans le verset suivant en particulier, que personne ne peut se vanter. Personne ne peut se vanter. Alors, repensez à l'histoire du petit Philippe, qui croyait que son père n'allait jamais le punir pour les bêtises qu'il avait faites. Israël se croyait à l'abri du jugement de Dieu, puisqu'il faisait partie du peuple élu. Dieu les avait délivrés des Égyptiens en les sortant de l'esclavage. Et en cela, ils avaient peut-être des raisons de se sentir différents des autres peuples. Pourtant, Dieu leur avait dit ceci, dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » Et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon. Dieu a choisi le peuple d'Israël par amour. C'est son libre choix. Et à présent, si Israël se comporte comme les autres peuples, il sera jugé aussi pour son péché, comme les autres. De même, dans ma petite histoire, Philippe sera puni au même titre que les autres élèves. C'est ainsi que le professeur, Monsieur Juste, sera vraiment juste. Et c'est ce que l'Éternel veut leur faire comprendre au verset 7. « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites ?» déclare l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ? Dieu interroge son peuple par des questions rhétoriques. Il les compare aux Éthiopiens en leur disant « Vous n'êtes pas si différents ». Il évoque ici la sortie d'Égypte, sans doute l'épisode le plus spectaculaire de l'histoire d'Israël. Et pourtant il leur dit « J'ai aussi fait sortir les Philistins et les Syriens de leur terre d'origine ». Et rappelons-le, les Philistins, les Syriens étaient les ennemis d'Israël. Dieu rappelle à Israël qu'il est le Dieu qui dirige les peuples, qu'il est le Dieu qui juge les peuples, tous les peuples. Puisqu'Israël se comporte comme les autres peuples, il est normal qu'il soit jugé comme tous les autres, voire plus sévèrement, puisqu'il est le peuple élu. Puisqu'il est le peuple qui a la connaissance de la loi de Dieu. Alors ici, nous avons une mise en garde, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu. Nous pouvons aussi tomber dans ce travers qu'est l'orgueil, la prétention. Ne nous mettons jamais au-dessus des autres, en particulier de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce qui nous distingue, c'est l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est sa grâce. Nous ne sommes pas supérieurs parce que nous avons cru. Parfois, on peut le déplorer, nous pouvons mal parler de ceux qui ne sont pas chrétiens. Comme s'ils étaient plus mauvais que nous. Comme s'ils étaient plus grands pécheurs que nous. Pourtant, malheureusement, les chrétiens pêchent aussi, et parfois tout autant. Attention à nos discours. lorsque nous en parlons entre nous. Attention à notre prétention intérieure que les autres ne voient pas forcément. Mais rappelons-nous que notre vocation est élevée. Dieu nous appelle à être saints, à faire ce qu'il nous demande de faire. Et là, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce, qu'il soit prêt à nous pardonner lorsque nous n'y arrivons pas. Et si nous commençons à nous remplir d'orgueil, alors Dieu saura aussi nous reprendre, comme il le fait ici, avec les Israélites. Mais rappelons-nous cette parole de l'apôtre Paul, qui dit aux Éphésiens, au chapitre 2, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Les Israélites ne peuvent donc pas avancer l'argument qu'ils ont été choisis par Dieu pour pouvoir échapper au jugement. Personne n'échappe au jugement d'un Dieu juste et souverain. Alors, y a-t-il encore de l'espoir ? Eh bien oui, il y en a encore un peu, si vous êtes toujours avec moi. Il y a encore de l'espoir. Seul Dieu fait la différence. C'est le quatrième enseignement que nous pouvons en tirer de ce texte. Et nous le voyons au verset 8, à partir du verset 8. Le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel. Bien que Dieu veuille mettre fin au royaume coupable, au royaume d'Israël, Dieu n'en a pas fini avec le peuple de Jacob, avec la famille ou la maison de Jacob. Dieu va permettre qu'un reste survive. C'est une promesse. L'Éternel le déclare. Et puis nous lisons au verset 9, « Je donnerai mes ordres et je secourrai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Dieu ordonne ici, Dieu donne des instructions, Dieu ordonne que la communauté d'Israël soit exilée parmi toutes les nations. Et effectivement, ça va être le cas. Les Assyriens vont venir et vont déporter les Israélites loin de leur terre, loin de la terre que le Seigneur leur avait donnée. Mais ça va se passer des années plus tard. Mais ici, déjà, ça nous est annoncé. Et cet exil sera une épreuve pour les Israélites, pour la communauté d'Israël. Une épreuve comme nous est décrit ici. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un crible. C'était un instrument agricole, ça existe toujours, mais ça n'a plus la même forme. C'était un instrument agricole qui était peut-être rond, avec des petits trous un peu partout. Et puis, avec ce crible-là, eh bien, on séparait le grain des cailloux. Et le crible retenait, en fait, les objets indésirables, comme les petits cailloux. Et le grain pouvait tomber et traverser. Alors, ici, j'aurais pas adopté cette version, forcément, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Ici, il nous est dit « sans qu'il tombe à terre un seul grain ». Dans d'autres versions, il nous est dit « sans que ne tombe à terre aucune pierre, même petite ». Et je retiendrai plutôt cette traduction-là. Oui, le crible retient les pierres. Et que représentent les pierres ? Que représentent les cailloux ? Eh bien, il représente ce qui nous est décrit au verset 10. « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » C'est-à-dire que ce crible va retenir tout ce qu'il y a de mauvais et va laisser tomber tout ce que Dieu veut garder et conserver. J'avais pensé à une autre image, mais j'ai oublié de l'apporter. Est-ce que vous savez ce qu'est un filtre d'évier ? La petite chose qu'on met dans l'évier pour éviter que des saletés puissent tomber dans les tuyaux. Eh bien, pensez à cette image. À quoi sert un filtre d'évier à retenir tout ce qui est indésirable? Oui, Dieu va se débarrasser de tout ce qui est indésirable. Et ce qui est indésirable, c'est qu'il y ait des coupables dans le peuple de Dieu. Par l'épreuve de l'exil, le peuple sera purifié. Et vous remarquez ici que c'est Dieu qui opère le tri. C'est Dieu lui-même qui va secouer le crible. C'est lui qui va faire la différence entre le grain et les cailloux. Et des siècles plus tard, à la question « Est-ce que tu es le Messie ?», Jean-Baptiste va répondre au peuple. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, c'est-à-dire la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. » Nous lisons cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. Ce n'est pas Jean-Baptiste le personnage principal. Quelqu'un de plus puissant, de plus digne, intervient dans l'histoire de l'humanité. Et il fait un tri. Vous remarquez que dans ce passage que je viens de lire, il y a une autre image agricole pour séparer le blé de la paille. Et ce qui fera la différence entre les deux, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qui distingue les chrétiens de tous ceux qui ne le sont pas. Et comment recevoir le Saint-Esprit ? Eh bien, l'apôtre Pierre y répond dans Actes 2, verset 38. « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu sait faire la différence entre ceux qui ont changé et ceux qui n'ont pas changé. Changer, cela signifie se détourner de sa manière de vivre qui ne tenait pas compte de Jésus-Christ. Changer, c'est changer de direction dans sa vie pour suivre Jésus-Christ. Et ici, cela s'exprime par le baptême. Changer, c'est avoir confiance en sa grâce pour qu'il pardonne nos péchés. C'est alors que Dieu donne son Esprit Saint pour nous montrer qu'il nous a reconnus comme siens. Et c'est la décision la plus importante que nous ayons à prendre. Changer pour suivre le Seigneur. Je ne connais pas votre cœur, mais seul Dieu fera la différence. Ce texte d'Amos nous invite à prendre la parole de Dieu au sérieux. Il nous enseigne plusieurs choses. Que personne ne peut fuir la justice de Dieu. Nous avons tous à répondre de nos actes. Nous avons tous des comptes à lui rendre. Ensuite, que personne ne peut échapper à un Dieu souverain qui domine sur toute sa création et qui mérite toute notre adoration. Ensuite, que personne ne peut se vanter d'avoir été choisi par Dieu, car ce n'est que par grâce. Et enfin, seul Dieu fait la différence, lui qui connaît notre cœur. Alors, pourvu qu'aucun d'entre nous ne se retrouve exclu du royaume de Dieu pour avoir pris la mauvaise décision. Au jugement dernier, c'est Jésus qui nous jugera et qui nous demandera des comptes. Qui nous demandera « As-tu fait attention à moi ?» durant ta vie ?« As-tu cru en moi ?» durant ta vie ? Qui peut échapper à Dieu ? Nous pouvons être sûrs que personne n'échappe à Dieu. Ni celui qui doit être condamné, ni celui que le Seigneur veut sauver. Coûte que coûte, Dieu cherchera aussi celui qu'il veut sauver. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, qui peut échapper à ton jugement ? à ta justice ? Et la réponse est personne, parce que tu vois tout et tu sais tout. Tu connais parfaitement notre cœur, tu sais aussi nos luttes et nos difficultés. Tu sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons le désir de te plaire, mais que parfois nous n'y arriverons pas, tout simplement. Alors nous t'implorons pour que tu nous fasses grâce encore une fois, comme tu l'as promis dans ta parole. Et merci pour cette possibilité de pouvoir être au bénéfice de ta grâce. Merci parce que dans ta souveraineté, tu as décidé de sauver des hommes et des femmes. Et c'est ton libre choix, et tu fais ce que tu veux. Et en cela, Seigneur, nous voulons continuer à le dire, que ta volonté soit faite. Amen.